monde, Spectaculaire commence, enfin, aujourd'hui, 14h02, mercredi 10 janvier 2018, émission numéro 151, 10 janvier 2018, mais alors c'est que nous sommes dans une nouvelle année, puisque nous étions quittés en 2017, donc heureuse et joyeuse année, auditeurs. Nous vous souhaitons une année pleine de spectacles, puisque bien entendu, nous couvrons, nous parlons de manifestations diverses et de spectacles en particulier dans l'émission. Et aujourd'hui, Christophe Rollin au micro, je reçois avec Gérald, nous recevons Laurent Fréchuret et Laurence Vielle, les deux seuls, uniques têtes d'affiche de cette pièce au Théâtre de la Croix-Rousse, Sainte dans l'incendie, une pièce écrite par Laurent Fréchuret, metteur en scène, et jouée par Laurence Vielle, unique comédienne sur le plateau, la petite salle, le studio qui est tout en haut, et c'est très bien. Voilà, nous allons en parler pendant une heure, comme tous les mercredis, jusqu'à 15h. Nous allons commencer avec un titre musical qui ne nous est pas prêté par Laurent, mais qui est en rapport, et il s'agit de The Smiths Is Dead. C'est une compilation des Inrecuptibles. Ils avaient refait l'album des Smiths de Queen is Dead, et donc nous écoutons Placebo qui reprend le titre Big Mouth Strikes Again. Il est question de Jeanne d'Arc qui meurt, qui périt dans les flammes. C'est jusqu'à 15h que nous allons discuter de cette pièce Sainte dans l'incendie au Théâtre de la Croix-Rousse jusqu'au samedi 20 janvier. Vous nous écoutez sur le radiocanu.org si c'est sur internet, ou bien le 102.2 de la bande FM si c'est à Lyon.
Bonjour à tous, chers auditeurs, c'est Gérald, j'allais dire à l'appareil, non, en studio, je suis revenu avec Christophe Rollin à la technique, à l'esprit, avec deux invités exceptionnels aujourd'hui, pour un spectacle dont l'auteur et Laurent Fréchuret.
Ici présent.
Ici présent, venu déjà pour En attendant Godot en 2016, émission 87, à laquelle je vous renvoie.
Mercredi 20 janvier.
Et une comédienne phénoménale qui porte spectacle à merveille, qui s'appelle Laurence Viel.
Poète, je crois
aussi. Et poète, et on en reparlera parce que il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux personnages.
Et donc, rappelle la pièce Gérald.
Et Vienne pour Sainte dans l'incendie, qui sera donnée au Théâtre de la Croix-Rousse, un spectacle d'environ 1h05. Tous les soirs à 20h, sauf le samedi à 19h30, dans la petite salle du Théâtre de la Croix-Rousse.
Qui s'appelle le studio.
Voilà, du 9 au...
samedi 20 janvier.
Voilà, donc 10 fois, 11 fois. On était hier soir, on a eu la chance d'assister à la première.
Quelle première?
C'était très très bien. Et on est encore sous le choc et troublé par cette performance.
Donc bonjour nos invités, bonjour Laurent,
bonjour.
Bonjour.
Laurent, on avait nous avions déjà établi un portrait un peu de la personnalité stéphanoise. Est-ce que vous êtes, et pas seulement, parce qu'on peut être autre chose que seulement stéphanois.
Donc, c'est difficile, c'est difficile.
Mais vous avez un micro vert aujourd'hui, c'est très bien. La couleur est une couleur tout à fait sportive. Et donc on peut renvoyer les auditeurs à cette émission numéro 87 qui est bien disponible sur le blog. C'est vrai qu'on me l'avait déjà dit auparavant, il y a toujours un peu de problème pour écouter les émissions. Mais il me semble que ce qu'il faut faire, c'est télécharger. Si on écoute sur internet, je crois que ça peut couper. Il faut donc télécharger, c'est-à-dire c'est faire le clic droit, ou à défaut si on a une souris d'un concurrent bref, on fait un clic, enfin on se débrouille, on met télécharger le fichier sous, et puis ensuite on peut écouter à loisir comme on le souhaite. Donc auditeur, je vous renvoie à cette émission. De toute façon, normalement jusqu'à 15h on va encore parler certainement de qui vous êtes, Laurent, à la fois donc écrivain, metteur en scène, auteur, différentes casquettes. Mais nous ne connaissons pas Laurence Viel, poète, poétesse. Non, on n'est pas ce féminin.
Ouais, moi j'aime bien poétesse.
Poétesse
nationale belge.
Nationale belge. Eh bien, écoutez, voilà, on vous lance cette simple question. Elle est facile, hein. Qui êtes-vous, Laurence? Avant de parler de Jeanne d'Arc, plus précisément, dans une deuxième partie d'émission.
Je sais pas qui je suis, mais en tout cas, je suis là pour le moment. Je suis contente d'être là, je suis contente d'être avec vous, et je suis contente d'être à la Croix-Rousse et de découvrir un peu plus Lyon, que je connais pas si bien que ça. Bien que j'avais un grand-père, j'ai un grand-père qui enterrait pas très loin d'ici, du côté de Mâcon, à Belverne, qui faisait du vin. Donc j'apprécie. J'ai quelques racines liées au raisin, c'est pas mal. Donc je suis comédienne, poète, et j'ai eu cette grande joie de rencontrer Laurent il y a une dizaine d'années pour ce poème de Sainte dans l'incendie qu'on a sorti, que Laurent dit avoir sorti de ses tiroirs, et c'est une longue aventure puisque ça fait plus ou moins 200 fois qu'on le joue, et là hier soir à la Croix-Rousse j'ai retrouvé ce texte avec beaucoup de bonheur. J'aime dire les mots, surtout les écritures d'aujourd'hui. J'aime bien les écritures qui ont l'air un peu impossibles. J'aime beaucoup, par exemple, les écritures de Valère Novarina. J'aime les écritures rythmées, qui appellent l'oralité. Et je trouve que l'écriture de Laurent, c'est tout ça.
Et votre écriture à vous, parce qu'on va parler de Sainte dans l'incendie, bien entendu, hein, c'est la matière de l'émission, c'est le sujet principal, mais tout de même, il y a Laurence Viel, qui est une autre matière essentielle pour ce spectacle et pour cette émission, donc il faut en passer par la Laurence. Il faut que vous nous disiez tout d'abord, je sais pas, pas forcément un parcours, mais voilà, ces mots, est-ce que par exemple vous auriez pu écrire ce texte? Ou est-ce que ce que vous écrivez peut ressembler à ça?
Je pense pas, après je crois que je l'ai tellement digéré, mangé, avalé, que quelque part je me suis mise en symbiose avec lui, donc qui me ressemble un peu, donc peut-être que chaque fois que je le dis, je le réécris un peu, puisque chaque fois quand je dis des phrases de ce texte, je me dis tiens, cette phrase-là, je l'avais pas encore entendue comme ça. Et ça me fait penser à Borges, qui dit que chaque fois qu'on relit Don Quichotte, on devient l'écrivain qui l'écrit, et c'est vrai que...
Le Pierre Ménard.
Oui, le Pierre Ménard, et le Don Quichotte de Pierre Ménard. Et alors, c'est vrai que j'ai l'impression que chaque fois que je dis le texte de Laurent Douault, il y a un petit peu de moi qui le réécrit, parce qu'il a cette profondeur, ce côté abyssal. Et comme poète, oui, voilà, j'aime l'oralité, donc je suis bruxelloise et j'aime Bruxelles, et j'ai deux filles à Bruxelles, et j'ai beaucoup d'amis poètes à Bruxelles, et c'est la
Alors,
ville
Bruxelles voilà. Même ou Ixelles ou
bien... Saint-Gilles, mais c'est à Bruxelles, hein, parce qu'à Bruxelles c'est une des... mais je me sens très bruxelloise, et là je viens comme poète nationale, là je viens d'écrire un dernier poème qui est une lettre d'amour à Bruxelles, et j'aime ma ville, voilà, j'aime ma ville là-bas.
Et est-ce qu'on évoque aller comme ça? C'est très malheureux de ma part. De toute façon, je suis toujours maladroit. Un quartier de Bruxelles, je crois, Molenbeek. C'est ça,
Molenbeek. Non, oui. Ah ouais, il est bien ce quartier. En fait, donc, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de structures culturelles, et voilà. C'est d'ailleurs bien qu'on en parle à cause de ces tristes événements, mais c'est bien que les gens aient envie d'aller se balader dans ce quartier qui est juste passionnant, foisonnant et
très multiculturel,
très populaire et à la fois il se passe vraiment beaucoup de choses là-bas. C'est au bord du canal. L'eau est pas très présente à Bruxelles parce que c'est une ville d'eau qui a été fort recouverte. Et là, à Molenbeek, l'eau est encore très présente. Donc,
Je me baladais à Bruxelles en allant voir Laurence et on fait un grand tour à pied et on se retrouve dans un quartier charmant, un peu désuet, mais avec des jolies vieilles maisons. Enfin, et puis des choses sympas. On va visiter deux trois trucs. Puis au bout d'un moment, je prenais des photos et quelqu'un m'aborde en me disant ah, vous prenez des photos parce qu'on parle de Molenbeek partout. Et je n'avais pas compris. J'étais à Molenbeek. Et pour moi, Molenbeek, quand j'entendais aux informations, j'imaginais une chose horrible avec des bars gigantesques comme on peut voir dans certaines banlieues chez nous. Mmh. Et alors que c'était pas du tout le cas. Donc c'était bien de découvrir aussi autre chose que le cliché, que transporter ce mot qui tout à coup est devenu à la mode parce qu'il y a eu des tristes événements. Mais il y a autre chose qui se passe aussi, évidemment, dans cet endroit.
Oui. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous dire un poème que j'ai écrit juste le lendemain des attentats à Bruxelles.
Et oui, parce que l'écriture, c'est certainement important, mais vous dites que c'est l'oralité qui vous plaît. Donc, si vous souhaitez dire, on vous laisse dire, volontiers.
Voilà. Donc, ça s'appelle Cible. Je suis cible. Tu es cible. Nous sommes cible. Cible pour balles fanatiques qui se glissent dans nos plis. Fracasse ma ta carcasse. Fracasse ma ta carcasse. Je suis. Tu es. 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 Tu es potentiel fracassé. Je suis. Tu es. Tu es. Nous sommes cible. Cible. La haine ronge nos êtres dans les rues de Bruxelles. Un pigeon frôle le visage d'un homme. Nous nous sourions. Nos yeux se disent que nous sommes cible, oui. Cible d'amour. Cible d'amour. Danseur de nos peaux. Cible. Tous nos peaux cibles. Ma ville au cœur fêlé. Nos peaux cibles. Dans tes rues danses. Aujourd'hui, demain, sont cibles. Tous nos peaux cibles.
C'est soufflant, moi j'aimerais bien le voir écrit parce que le tu es prononcé plusieurs fois, vous l'écrivez comment?
Il se métamorphose facilement.
C'est rude, hein, à 14h15, là, comme ça,
ça rappelle ce qu'on a vécu hier soir, en plus.
Avec exactement. Sans voir c'est vrai, l'écriture n'est pas celle de Laurent, n'est pas celle de Sainte dans l'incendie, mais il y a quelque chose là, ce pigeon, c'est un pigeon, c'est ça qui frôle
le visage d'un homme.
Oui, un pigeon. On aime les pigeons.
Il y a un frelon chez vous, c'est ça. Il y a des frelons.
Je les déteste.
Il y a des frelons, des papillons également qui se cognent leurs vitres à des fenêtres, oui, je crois.
Il y a beaucoup d'animaux dans le texte, ouais. Laurent. Ouais. Des oiseaux, des animaux, une vache. Ouais. Qui se tient debout dans les prés.
Et qui s'avachisse. Laurence, allez, encore 2-3 minutes peut-être sur vous. Je ne sais pas comment êtes-vous venue à cette poésie. Est-ce que c'est la poésie qui vous a attirée, qui vous a prise,
La poésie, elle m'a jamais vraiment. J'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs à dire que j'étais poète parce que j'ai toujours écrit, depuis que j'ai appris à écrire à l'école, j'ai toujours écrit et dit les mots. Et je me rappelle, j'étais dans une rivière qui s'appelle la Lesse en Belgique. J'avais 6 ans et je venais d'apprendre le son hul et je nageais en criant tous les mots hul que je connaissais, tous les mots qui terminaient par hul, hul, jules, qui fait des bulles, ce propre recul, c'était un poème d'enfant, j'ai bassiné les oreilles de mes parents avec ça pendant des années. Et donc dès que j'écrivais un texte, j'allais le dire tout haut.
T'as ululé.
Je ululais sans cesse. Je hule toujours et j'aime dire les mots. Voilà, ça me tient debout. J'ai l'impression que c'est comme si parfois la vie me fait grise mine ou quoi. J'ai l'impression que redire des mots tout haut, ça me remet debout. Et puis là, on est beaucoup de poètes en Belgique à défendre l'oralité. Donc mon éditeur, c'est David Giannoni, qui a cette édition fantastique et Maestrum, qui fait des petits bouclegs, un peu comme Ferlinghetti a pu le faire donc il fait des petits bouclets qui coûtent 3 euros et c'est une façon de diffuser comme ça tous ces poètes liés à l'oralité qui est magnifique. Et puis voilà, j'avais promis à Gérald de dire un petit poème d'un de nos grands poètes belges, Jean-Pierre Verhaeghen. C'est un poème devinette. Donc amis auditeurs, voilà la devinette du poète Jean-Pierre Verhaeghen. Mon premier a une cigarette au bec. Mon deuxième n'a pas de cigarette au bec. Mon troisième a une cigarette au bec. Mon quatrième n'a pas de cigarette au bec. Mon cinquième a une cigarette au bec. Mon sixième n'a pas de cigarette au bec. Mon septième a une cigarette au bec. Mon huitième n'a pas de cigarette au bec. Et mon tout, c'est le bruit que fait un cheval fou qui court dans le désert. Alanxier. Et c'est évidemment dédié aussi à Gérald Cortoluzzi qui fait des œuvres avec du papier à cigarette et
donc qui... Gérald, si nous avions pris ce café avant aussi, moi j'aurais volontiers demandé peut-être un autre de Émile Verhaeren, mais bon, on va vous épargner, vous laisser tranquille.
Et Henri Michaud était belge aussi, non?
Oui.
Oh là là, il y en a des belges
qui sont du bout du monde. Et
est-ce que est-ce seulement là, moi j'ai cette ultime question avant que nous passions plus précisément sur Sainte, vous parlez d'oralité et de langue, enfin vous parlez surtout d'oralité, moi j'aimerais vous parler de langue en français seulement, il n'y a pas donc un peu de wallonisme ou un peu de néerlandisme ou des choses, enfin je sais pas, est-ce que, ou de l'anglais, est-ce que ça vous plaît beaucoup?
Alors le projet Poète National qui est une façon de lutter chez nous contre cette espèce de séparation qu'on a, qu'essaye de faire les politicards, de séparer ce pays alors qu'on est tellement à vouloir qu'ils restent ensemble, mais il se fait que quand même, on ignore très fort le néerlandais, qui est quand même la moitié de la Belgique, et idem, les néerlandophones, ils connaissent pas ce qui se passe de l'autre côté, donc c'est un projet poétique, poélitique, qui essaye en fait de réunir ces parties. Ma mère est flamande, elle est anversoise, elle m'a jamais parlé flamand, c'était une francophone de Flandre, mais qui parle tout à fait bien le flamand, mon père est en Suisse, franc, etc. Bref, mais de plus en plus, grâce à ce projet Poète National, qui donc rassemble des partenaires francophones et néerlandophones, je mets du néerlandais dans mes poèmes, j'aime énormément cette langue. Je trouve qu'elle est rugueuse, qu'elle est gutturale, elle vient du ventre, elle rappe, il y a des re, il y a quelque chose qui est... On dit toutes les lettres, contrairement au français, on prononce tout, elle est condensée, elle est dense, je l'aime beaucoup cette langue, voilà. Donc j'espère que ce projet m'aura aidé à mettre un peu plus de néerlandais
je parle également, enfin je ne sais pas si le mot existe, des wallonismes, non? Il n'y a pas...
Ah oui, ça... alors il y a des wallons aussi, et donc, mais il y a, disons que le néerlandais, la moitié du pays le parle. Il y a trois régions donc en Belgique, même il y a la région bruxelloise qui est une région à part entière où on parle français, néerlandais et plein d'autres langues, hein, arabe, anglais. Et puis il y a la région néerlandophone et puis la région wallonne. Mais la langue de la région wallonne, c'est quand même principalement le français. Les dialectes sont bien sûr là, mais peu présents, tandis que du côté flamand, on parle vraiment le néerlandais. Donc moi j'aime bien quand on entend un peu de wallon, il y a plein de chouettes mots très jolis. Il y a Jules Osbocarne qui a... Enfin, voilà, oui. on a des magnifiques poètes wallons. Ben, Verhaeghen d'ailleurs, il est wallon. Mm-hmm. Il est wallon, Verhaeghen. Et donc moi quand je dis que j'aime les poètes de mon pays, ça comprend les trois régions, on va dire. Ouais. Et il y a aussi la petite région allemande là, qui est une petite angle, voilà, mais on les connaît moins bien aussi.
Merci pour toute cette présentation un peu de la Belgique. Promis Laurent, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas réécouter MC Pampille avec du gaga pour les Stéphanois puisqu'on parle de langue. On va plutôt écouter, alors est-ce bien ça, The Childhood of an Evasion?
Oui, c'est celui-ci. Depuis une trentaine d'années, enfin depuis 30 ans que je fais ce boulot, mais depuis 23 ans qu'on a fondé le Théâtre de l'Incendie, la compagnie à Saint-Etienne, on a souvent associé aux mots des poètes et aux jeux des acteurs les inventions musicale des compositeurs et de certains fidèles au long cours comme Dominique Lantin ou Bob Lippmann que je salue ici et qui nous ont vraiment aidés à créer ces pièces où il y a effectivement du langage mais il y a aussi de la musique, qu'elle soit rock, qu'elle soit jazz, qu'elle soit plus classique, etc. Ou innovatrice, comme on dit, mais toute belle musique est innovatrice. Donc, on a fait un double disque cette année qui s'appelle Une oreille dans l'incendie et qui a une traversée de toutes ces musiques qui ont traversé nos spectacles depuis une vingtaine d'années, qu'on a réorchestrées, réenregistrées en studio. Et ça donne ce double disque où il y a le premier disque, c'est plutôt des poèmes rock, on peut écouter quelque chose, où Bob Lippmann a traduit d'ailleurs des morceaux de Sainte dans l'incendie en anglais. On fera peut-être une version anglaise, un de ces quatre. et le disque 2, c'est Sainte dans l'incendie, cette fois où Laurence a enregistré en studio le texte. Donc on est un peu moins triste d'arrêter le spectacle, puisqu'on a quand même la trace sur le disque, avec des musiques d'ailleurs qui ont été mises dessous. Voilà.
Alors, je commence par celle-ci, ou bien il y a 28 titres, je vois Tsunami le dernier, Les Humanités, Te Recuerdo, oui, c'est vrai qu'il y a différentes langues, Shoot Me in the Head, Oui, bah, il y a différentes choses.
Mais ce que vous voulez,
carcasse. Eh ben, allez, commençons avec The Childhood of an Evasion. Petite précision aussi, en début d'émission, je voulais mettre le titre de Placebo. Ben non, j'ai mis le titre original de des Smiths, The Queen is Dead. Il me semblait que c'était un Morrison qui chantait. Je vais essayer de retrouver ça, Laurent. Je suis presque sûr. Bien entendu, ce n'est pas le,
ce n'est pas Jim
Morrison des Doors, mais il me semble que ce chanteur des de Queen, j'oublie absolument tout, de Smiths. Bref. Nous reprenons bien pour la pièce Sainte dans l'incendie qui a commencé hier, mardi 9. Rassurez-vous, auditeurs, il y a tout un paquet de représentations jusqu'au samedi 20 janvier. Le samedi, c'est à 19h30, en semaine, c'est à 20h. Et donc, nous sommes avec Laurence et Laurent pour en parler. On fait un petit instant poétique sur un extrait de cet album dont vous nous avez parlé. Et nous reprenons juste après.
Dont Rémy, frontière de Lorraine, bord de Meuse, pays rural dans un monde étranger, 100 ans de guerre dans un sentier peureux. Née à 3 heures, sous les forceps, Jeanne, sur la peau de qui on peut déchiffrer cette tache de naissance, tu vieilliras mal.
Merci Laurence.
C'est une belle introduction.
Laurence Viel, la comédienne qui incarne, qui est Jeanne d'Arc dans ce spectacle qui s'appelle Sainte dans l'incendie, donné donc au théâtre théâtre de l'incendie, donné au théâtre de la Croix-Rousse. Ça a commencé, mais il n'y a eu qu'une seule date. Il reste encore ce soir ainsi que toute la semaine. Relâche dimanche et lundi, mais ça reprend mardi prochain.
Jusqu'au
20 heures en semaine, 19h30. Ce sont les tout premiers mots. Merci beaucoup Laurence. Merci. Laurent Fréchuret, vous qui êtes l'auteur de ce texte. Vous l'avez écrit comment et quand ce texte? Il y a quelques années, hein. c'est oui, pas hier ou avant-hier.
J'ai commencé il y a plus de 30 ans, et j'ai dû l'écrire en gros il y a 20 ans, quoi. Et donc quand j'avais 30 ans.
Et c'est sous une forme particulière, hein, ce texte.
C'était en fait des milliers de petites bribes d'aphorismes, de mini-poèmes très personnels, hein, où il n'y avait pas du tout une histoire de Jeanne d'Arc au départ.
Sur la petite vidéo
des sensations.
De la Croix-Rousse, on qualifiait ça de
haïku. Courte, comme des aphorismes.
Bon. Oui, voilà.
Ce qu'on
des haïkus. Des haïkus.
Voilà, moi j'ai vu ce terme-là.
Oui, c'est des haïkus, Stéphane.
Ouais. Et donc, vous les écrivez comme cela.
Et donc, j'amasse ces choses très personnelles. À côté de mon métier de metteur en scène, j'ai mon jardin secret d'auteur, on va dire, de griffonneur. Et puis ça s'amasse. Je m'amuse un peu à les coller, à faire du cut-up comme William Burroughs, que j'aimais beaucoup, qui était
que vous avez déjà mis en scène.
Qu'on a, voilà.
Parmi tant d'autres.
On faisait beaucoup d'adaptations d'après des œuvres complètes. On a fait Artaud, les 28 volumes, Cioran, les 4000 pages, les 24 bouquins de Burroughs, etc.
Pasolini, Carole.
Voilà, qu'on découpait en morceaux et dont on faisait des agencements, comme ça, pour inventer des scènes de théâtre, de pièces qu'ils auraient pu écrire, puisqu'elles existent en désordre dans leur œuvre. Et je pensais vraiment que ça pouvait marcher, et des fois ça marche. Des fois ça marche pas, mais c'est bien de rater de rater mieux, comme dit Beckett. On essaye de rater mieux, c'est pour ça que c'est bien de vieillir, pour rater mieux.
Échoue mieux.
Voilà. Et effectivement, j'ai fait ça avec ma propre écriture.
Retourne la dédicace, Géraldine, il y a une dédicace qu'il faut retrouver sur...
au début, oui.
Ah oui, Onisois qui symbole.
Mais bon, on vous coupe, Laurent, je vous coupe, donc vous faites cela.
Il n'y a pas de symbole, Beckett aimait pas qu'on disait c'est le symbole, de ça veut dire, ça signifie, etc. Il disait fallait le prendre d'une façon peut-être plus organique, plus
et ouverte.
C'était plus des perceptes, comme on dit, comme dit Deleuze, où on ressent des choses nouvelles, quoi, mais sans que ça passe forcément par la case cérébrale. Et c'est pour ça que, évidemment, quand j'entends Laurence, c'est évidemment exactement ce qui m'émeut et qui me bouleverse et qu'on cherche comme ça. C'est cette chose qui passe pas tout de suite par la raison, mais qui passe par les pores de la peau. On comprend des choses, mais par la paume de la main, par le pied, par le cou, par le nez, etc.
Et pas le toucher, pas d'odeur, pas non plus de visuel. Mais
oui, comme c'était capillaire, je sais pas comment dire.
D'où le sous-titre, d'ailleurs, Sainte dans l'incendie, hein, publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs, réédité en fait, avec un sous-titre, poème dramatique pour jeu, voix et corps humain.
Oui, je voulais tout de suite que ce soit du jeu, de la voix, du corps, que ce soit organique. C'est-à-dire que j'ai toujours peur de faire une écriture peut-être un peu précieuse, si elle, ou alambiquée, ou absconce, je sais pas si ça se dit, quand ça reste enfermé dans le livre. Donc c'est vraiment du théâtre, dans le sens, tout ce qui devient charnel, tout ce qui est réécrit par des acteurs qui le jouent ensemble ou qui le disent, et qui le partagent avec un public, qu'ils réinventent avec le public chaque soir, tout à coup, ben, l'auteur, il a apporté que la moitié de l'œuvre. Mm-hmm. C'est ça qui est beau, c'est d'appeler d'autres personnes à faire l'œuvre. C'est ce qu'on fait depuis le début qu'on fait ce métier. C'est d'appeler des frères qui n'existent pas à exister, à nous rejoindre, à inventer quelque chose ensemble. Et c'est déjà une petite victoire de remporter chaque soir, de faire des petites choses, je dirais, modestes et géniales, comme dit l'autre, artisanales et extraordinaires. C'est déjà une revanche sur un monde qui nous empêche un peu de plus en plus à faire ce genre d'action, comme des petits attentats poétiques comme ça, très, très agréables. Alors, tous ces petits poèmes, ces milliers de poèmes, j'ai commencé à les coller, à inventer des scènes. Je voulais pas devenir un poète qui un jour publie un recueil d'haïkus, mais j'avais vraiment envie d'être un auteur dramatique qui propose une poésie qui doit être charnelle, inventée, et qui sert à jouer des cordes vocales et du talent. Et le hasard a fait que il y a une dizaine d'années, j'avais gardé ça dans un tiroir, évidemment. Et puis j'avais commencé à entrevoir qu'il fallait une figure, peut-être.
Oublier presque, ou oublier, ou en fait, non.
Non, je garde pour moi.
Je n'oublie rien.
Ah non, je n'oublie rien du tout.
On n'oublie rien. On s'habitue, c'est tout.
On s'habitue même pas, d'ailleurs.
Et donc, vous rencontrez.
Et donc, je me dis qu'il faut que coller tous ces petits haïkus pour en faire un long poème. C'est plutôt un long chant, comme ça, que je souhaitais. À partir de toutes ces bribes, à partir de ces morceaux, ça, on fait un grand puzzle, mais qui commence à dessiner un grand visage et qui doit être une grande figure, comme ces figures que j'aimais travailler au théâtre, qui étaient le roi Lear ou Médée. J'aime bien ces êtres un peu monstrueux qui dépassent, qui sont hors normes et qui nourrissent comme ça une réflexion pour tous les gens normaux qu'on peut être. Mais on a besoin de choses qui nous dépassent et qui nous font peur, qui nous effraient. Ça nous fait avancer. Et donc là, j'essaye avec Don Quichotte, ça ne marche pas. J'essaye de coller tous mes petits poèmes et de lire des trucs sur Don Quichotte et puis d'en faire une figure comme ça, un portrait de Don Quichotte. Ça marche pas, même si j'aime beaucoup Don Quichotte. Et puis à un moment, je trouve Jeanne d'Arc, je potasse un peu ma Jeanne d'Arc, je lis des choses, je commence à écrire un petit peu sur Jeanne d'Arc pour faire du liant. Et Jeanne d'Arc, c'est 10% du poème. Hein. Et 90% du poème était fait bien avant que j'ai cette idée de Jeanne d'Arc, mais qui sert de fil conducteur. Mm-hmm. Et je me rends compte que j'ai plein d'accointances, non pas que je me prenne pour Jeanne d'Arc, mais j'ai plein d'accointances avec elle, dans le sens où je suis fasciné par le Moyen-Âge, par le feu, par l'érotisme, par le mysticisme, par le côté aussi d'une petite bonne femme, une petite paysanne qui va arriver à faire couronner un roi de France, qui va arriver à fédérer, donc c'est une sorte de chef de troupe, de metteur en scène. Mmh. C'est quelqu'un qui projette, qui entend des voix en plus, qui est traversée, donc c'est aussi une comédienne qui est traversée par des voix. Bon, il y a plein de métaphores théâtrales.
Et puis c'est très ramassé, c'est sur 10 ans, même pas sur 5 ans, 3 ans.
Et en plus,
c'est...
tout ça est fulgurant, tout ça est assez rapide. Mmh. Et cette pauvre petite jeune va se faire brûler. Elle a la vingtaine, c'est jeune quand même. voilà. Et donc, tout ça est en gestation, quand tout à coup, je vais en banlieue parisienne voir une pièce où jouait Mireille Mossé, comédienne formidable, qui nous a quitté cette année, qui était vraiment une amie, qui est toujours une amie d'ailleurs, parce que ça ne s'arrête pas.
On l'entend rire parfois.
Oui, on l'entend rire, on l'entend toujours rire. Et il y avait Laurence Vielle qui jouait avec elle, et puis il y avait trois comédiennes comme ça qui jouaient un texte de, comment il s'appelle déjà, de Véronèse, de Daniel Véronèse. Et là, j'ai flashé sur Laurence Vielle. Et je me suis dit, celle-là, je vais la harceler, mais il faut à tout prix. Et heureusement, elle a dit oui. Après, il faut à tout prix qu'on travaille ensemble. Et puis même, je me dis, si on pouvait être amis, parce que je sentais tellement de choses fortes. Et ce fut le cas. Et je lui ai dit, écoute, c'est toi en fait, j'ai écrit ce texte pour toi sans te connaître, voilà, pour résumer les choses. C'est vraiment toi, et là du coup, ça c'est vraiment toi. Et du coup, j'ai sorti ce poème, je lui ai fait lire, et je lui ai dit, c'est vraiment toi qui dois jouer ça, c'est toi qui es Jeanne d'Arc. Cette Jeanne d'Arc-là, c'est ta voix, c'est ton corps, c'est ta façon de dire les mots, c'est ton intelligence du jeu, qui est en même temps, je dirais, qui est certes unique, mais qui est en même temps tragique, comique, clownesque, art brut, et art distingué en même temps, extrêmement, un grand raffinement, et une chose brute et rappeuse, comme tu dis, qui moi me fascine parce que j'entends autant du sens que du rythme, et tout à coup une apparition, une épiphanie théâtrale. Pour moi c'est une des grandes rencontres, je le dis comme ça simplement, hein, mais une des grandes rencontres de ma vie de metteur en scène et du coup de poète qui pour l'occasion, grâce à Laurence, était réuni. J'avais l'impression qu'on collait deux morceaux de moi et que j'étais un peu plus moi-même grâce à ça. Et dès que Laurence a commencé à le dire et qu'on a répété, et que grâce à la Maison de la Poésie et Claude Guerre à Paris, puis ensuite Jean-Michel Ribes, puis le Théâtre Vidi Lausanne, puis le Festival d'Avignon chez Alain Timard, au Théâtre des Halles, et maintenant au Théâtre de la Croix-Rousse grâce à l'équipe de Jean Lacornerie et de Anne Meillon. C'est formidable pour nous depuis 10 ans. Il y a eu les journées d'auteurs de Lyon, de la ville de Lyon, qui ont publié, on a eu ce prix-là qui a permis de faire le livre, qui a été réédité au Solitaire Intempestif maintenant. Ben, ça a permis de faire exister ce petit poème de départ, ce petit jardin secret, travail à côté du boulot, ce petit travail clandestin, à devenir en fait le cœur de notre métier. C'est ça qui m'a plu, c'est que la rencontre avec Laurence a permis ça. Et puis j'ai découvert après, évidemment, que Laurence était poète et qu'elle a écrit une œuvre vachement importante, et dont vous avez entendu là un extrait qui est formidable, quoi.
Il faut préciser aussi qu'elle a reçu en 2016 le prix SCAM de la consécration littéraire et le grand prix international du disque et du DVD catégorie parole enregistrée de l'Académie Charles Cros.
Ah oui, pour son livre. Magnifique disque, livre, ouf. Avec les textes de Laurence. Et donc ça fait 10 ans, on est
la musique de Vincent Granger qui habitait tout près de Lyon.
Ouais. Et ça fait 10 ans cette aventure, voilà. Donc c'est assez émouvant. Il y a un petit bout il y a un petit aphorisme dans l'incendie. C'est la nuit passée, réveillée sans voix, une voix 10 ans, 10 ans ont passé.
Et non, c'est 2 ans.
Oui, mais on va dire 10 ans à partir de. On va dire 10 ans passés. Parce que vous, justement, alors, quand on l'a écrit, c'était 2 ans, puis maintenant c'est 10 ans.
Et vous, Laurence, ou alors à moi, Gérald, que tu avais une question à poser.
Laurence, c'était pour finir ce que Laurence vient de dire, page 23, partie. Parce qu'il y a 12 parties, on n'a pas précisé exactement. Donc dans la partie 5, il y a ça. La neige commence à descendre. 100 000 phrases sur la campagne. De l'amour comme s'il en pleuvait, c'est-à-dire du théâtre. Et l'abjection de la guerre. Donc il y a tout là. Il y a le théâtre, il y a l'amour, il y a les rencontres.
Ah oui,
il y a la musique française, hein, là on est obligé d'en parler. Il y a du Francis Cabrel, du téléphone, ça c'est vraiment toi, on est quand même obligé de le dire. L'amour qui comme s'il en pleuvait. Moi, un instant, Laurent, il faut que vous répondiez peut-être à la précision qu'appelle Gérald.
L'amour comme s'il en pleuvait, ça a été pris dans une chanson,
c'est ça? Bah oui, moi c'est à ça que j'avais pensé. Bah, tant mieux si c'est encore du Borges, là, ça, le plagiat par anticipation. Laurence, il faudra que vous nous donniez ensuite votre version à vous. C'est un peu, je crois, Gérald, le film de Kurosawa, je crois que c'est Rashomon, avec plusieurs versions d'un même événement. Donc il faudra que vous nous disiez dans quelques instants, Laurence, vous, comment vous avez vécu cette rencontre quand cet homme, ce bel homme, est venu vous parler pour vous dire tu seras ma Jeanne.
Toi, tu es toujours très belle.
Laurent, l'abjection,
on passe bien, je trouve.
Abjection de la guerre, oui, vous trouvez cet extrait que fait Gérald dans la partie 5 est... Eh bien, significative, enfin du moins c'est...
J'ai pas compris la question.
Ce qu'a lu Gérald, vas-y Gérald, repars, tu l'as retrouvé.
100 000 phrases sur la campagne, de l'amour comme si on en pleuvait, c'est-à-dire du théâtre. C'était parce que le mot théâtre revient 2 fois.
Un autre moment où il parle du théâtre aussi, c'est quand elle retrouve Gilles. Jeanne fait les cabarets,
les bars,
parce qu'elle est trouvée Gilles ou un autre, Hilard, en train de mimer un oiseau dans un bar, et sans un mot, le dévisage, elle lui tire les larmes, elle lui tombe dans les bras fraternels, retour à Ithaque. À la tête d'une bande de gaziers, un an de chevauchés, clochards, amour de chien dans le blizzard Levencourt, la passion inculte, roulée dans du journal d'hiver, feutre, graisse et lièvre mort, idéal, théâtre, ruineux et dépouillé. Voilà, idéal, ruineux et dépouillé. Et si la vie a passé, au moins ne jamais être une de l'ancien monde.
Oui.
À jamais piquer d'autre chose. Vivre la vie d'une lèvre gercée.
C'est une déclaration un peu de, d'amour et d'utopie, à jamais être de l'ancien monde, à jamais trop s'arrêter, regarder en arrière et continuer à galoper, même si c'est sur le terrain vague, et en tout cas s'éloigner de la grande galerie marchande. Ça, c'est un peu
à cheval n'importe où.
Il y a quelques anachronismes.
À cheval n'importe où pour avoir moins trop. Oui, des fois, Jeanne d'Arc.
La salle de bain.
Elle galope, mais on sait pas pourquoi. Mais c'est ça qui est beau, des fois, c'est que c'est ces choses où qu'on réfléchit pas, elle galope, comme pour avoir moins froid, elle gestique. Elle a besoin de sauter sur son cheval comme ça, que pour traverser un hiver qui pourrait être fatal si on s'arrêtait à trop dire je vais réfléchir.
Voilà. Double question pour vous, Laurence. Alors, cette rencontre avec Laurence, ici, il faut que vous en parliez peut-être quelques instants, et puis ensuite la rencontre aussi avec Jeanne d'Arc, avec le texte, et puis avec.
Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Laurent, on s'est tout de suite réunis autour d'une table dans son appartement, près des Halles Saint-Pierre, près de Montmartre. Et on a lu tout de suite le livre. Il m'a tout de suite fait lire le texte. Je trouvais ce texte difficile à lire on n'y met pas de voix. Mmh. Et je trouve que c'est un texte, comme je disais tout à l'heure, qui appelle vraiment la voix et qui appelle le corps et la voix et qui prend toute sa force et sa dimension dans un espace, en fait. Comme une partition de musique qu'il faut jouer.
Et alors, vous avez fait ce qu'on appelle, je crois, une italienne, ou je ne sais jamais les termes techniques, sur une lecture comme ça.
On a fait une lecture comme ça.
Une lecture, une traversée.
Et puis après,
Et très vite, on a fait les journées d'auteur à Lyon.
Oui.
Et puis après, y a eu Claude Guerre, qui est un grand ami pour moi, et qui nous a permis de jouer la première version scénique de cette scène dans l'incendie à la Maison de la
Journée
Poésie
d'auteur,
à Paris.
C'était davantage lecture.
C'était à Lyon.
Oui, oui.
C'était déjà
Laurence était enceinte de sa petite Garance.
Non, qu'il n'y a pas le temps. Oui,
c'était une Jeanne d'Arc enceinte jusqu'aux yeux. C'était une enceinte dans l'incendie.
Et c'était il y a 9 ans, puisque Garance, elle va avoir dans quelques jours 9 ans. Donc c'était il y a 9 ans.
Et Garance a entendu beaucoup le texte quand tu l'as appris. Hein, tu l'as
J'allaitais et je disais ces mots sans arrêt. Oui,
alors, voilà. C'était au tout début, ça commençait par une lecture parce que vous avez pu l'apprendre, vous l'appropriez facilement ce texte, ou ça a été une épreuve.
J'ai trouvé ça difficile, c'est une épreuve. Mais comme quand j'avais appris les mots de Novarina, de l'inquiétude ou de la scène, je trouve que c'est des épreuves, mais qui font que ça s'inscrit comme ça dans la chair de façon tout à fait stupéfiante. Et ça, ce sont des langues qui renversent le monde, Après, quand on parle la langue de Laurent, on est autrement au monde. Quoi. Ça donne des nouveaux rythmes. C'est ça qui est bien.
N'est-ce pas aussi une inscription dans l'espace, parce que vous faites des gestes avec tout ce texte. Vous l'avez refait tout à l'heure à l'antenne, là, quand vous avez commencé sur ces premiers mots. Vous avez des mouvements de main. D'ailleurs, je crois que c'est écrit d'ailleurs dans le texte. Il est question que quand elle rencontre le dauphin, Jeanne, elle approche l'index, je crois, de son pouce.
Oui, parce qu'elle est illettrée, elle ne sait pas écrire son propre nom.
Elle joint le pouce et l'annulaire, elle montre devant son visage le nom silencieux de Jésus.
Donc voilà, vous refaites ce geste à l'instant.
Il y avait si on touche le pouce et l'annulaire et qu'on le montre devant son visage, ça voulait dire Jésus. C'était des signes. Ésotérique, etc.
Bien entendu, mais c'est, il me semble que Laurence s'approprie ses gestes.
Bien sûr, Laurence danse.
Il y a tout un...
Avec ou sans chaussures.
Une gestuelle.
Une danse, oui, d'abord avec chaussures, puis...
Elle rend son armure,
elle jette à la tête du roi qui l'a trompée, alors qu'elle l'a fait couronner à Reims, quand même, le roi Charles VII. Il se désintéresse d'être, on dit qu'il la baille aux corneilles, c'est-à-dire qu'il la jette, quoi.
D'accord.
Et là, elle va décider de continuer sa quête de poursuivre des voies qui sont peut-être symboles ou métaphores d'utopie. Elle continue à suivre ses voies alors que le roi l'a interdite de continuer sa mission.
C'est comme la fin d'une histoire d'amour.
Elle se donne une nouvelle mission personnelle.
Après en sorcellerie et tout ça.
Et elle est lâchée par tout le monde jusqu'au procès où personne ne va la défendre et jusqu'aux flammes.
Et oui, il y a des anachronismes, Gérald, de parler des anachronismes. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a... Quand elle entend les voix de la Vierge,
ça résonne.
À 18, à 13 ans, les premières voix font irruption à même la vie. Marie ouvre la bouche et tout s'éteint. La Vierge parle à Jeanne, Seigneur, sa voix résonne comme dans une salle de bain. Il y a des casseroles aussi.
Les lettres qu'elle écrit en.
Il y a des garçons de café.
Qu'elle écrit en prison, téléphone.
Il y a un téléphone qui apparaît.
Quel téléphone sonnera-t-il de joie?
Ouais. Et un téléphone.
Il y a aussi beaucoup de jeux de mots. Et là, d'ailleurs, je pensais à un jeu de mots. Je ne sais pas s'il est fait sur voix. Vous parliez beaucoup de voix à l'instant, Laurent. Est-ce que voix avec un X, certes vocale, mais Jeanne trouve-t-elle sa voix avec un E? Est-ce que vous, Laurence, vous avez trouvé une voix dans ce texte, à la fois vocalement ainsi qu'une voix? Vous l'aviez déjà, votre voix, l'écriture, l'oralité, mais est-ce que ça vous a permis de trouver une autre voix, un autre chemin, un autre...
Chaque texte, comme je disais, chaque texte comme ça qu'on avale et qu'on inscrit en soi, ça ouvre des chemins, quoi.
Ça, c'est du Novarina, non, avaler un texte.
On se fait parler par le texte, quoi. Le texte nous traverse après, on est comme un autre souffle, quoi. Donc on est agité par ce texte, on devient soi-même la marionnette de ce texte qui nous triture de l'intérieur, quoi. Il y a quelque chose comme ça, fort, qui nous... C'est assez fort dans le texte de Laurent. Comme une fois, d'ailleurs, c'est toujours très difficile de dire le premier mot du texte. C'est l'enfance d'une évasion, je sais, parce que je regarde très longtemps les spectateurs avant de commencer. Et je sais que quand je vais commencer à parler,
c'est le début.
C'est parti pour 1h05 de vertige, comme ça. Et je sais que je ne pourrais plus en sortir, comme une espèce de.
Tant que ça n'a pas transé.
La prison d'une transe. C'est Jean Genet, il disait la culture ou l'art, c'est apprendre à siffler dans une prison.
Voilà.
Et c'est vous qui t'as réussi, je trouve, à l'habiter, cette prison, et maintenant à faire que les fenêtres s'ouvrent.
Et vous le déclenchez quand vous le souhaitez, Laurence. C'est donc vous regardez les spectateurs, et quand vous voulez, c'est vous qui faites le démarrage.
J'aime bien regarder.
Il
n'y
a pas de signe de Laurence.
C'est troublant d'ailleurs. J'ai cherché un adjectif hier soir après le spectacle, ça m'a troublé. C'est quand même vachement troublant, ce truc.
Le début ?
Tout est troublant, et je retrouve le mot d'ailleurs.
Ah oui.
Troublant dans le.
Il y a une proximité en plus qui est nécessaire. Hein. Ce texte doit être en proximité. On l'a créé à la maison de la poésie dans la petite cave en bas pour 30 personnes. C'était formidable. J'ai un souvenir d'il y a 10 ans, donc à peu près, ou 8 ans, 9 ans. C'était formidable, cette confidence, qui est ce secret qui est distillé par Laurence Vielle, Jeanne d'Arc, avec les passagers clandestins qui viennent chaque soir écouter ça dans cette petite endroit. Et là, je retrouve dans la petite salle du Théâtre de la Croix-Rouge, je trouve qu'on retrouve vraiment, c'est un petit grenier de confession diabolique et angélique à la fois, mais il y a vraiment un lieu qui est magnifique.
Et une boîte à rythme.
Et en plus, il y a une très belle acoustique, donc ce petit Théâtre de la Croix-Rouge, vraiment, est... moi j'en rêvais depuis 3-4 ans.
C'est l'obscur du cinéma aussi.
Oui,
un peu.
C'est vraiment un lieu qui a une âme, vraiment. C'est
cinéma, c'est... alors on pense tout.
Parce que c'est
l'œuvre du cinéma.
C'est important, les lieux.
Jeanne d'Arc.
Oui, bien sûr, Dreyer et compagnie.
Alors l'année dernière, on avait vu aussi Jeanne Aubuchet, qui est.
À l'opéra, c'est pas pareil.
Absolument rien à voir,
oui,
mais
bien sûr.
Justement.
De Honegger.
Arthur Honegger, oui. C'est ça.
Je l'ai joué, cette jeune.
Ah oui.
Voyons, à Leuven, au Le Mans Institute, avec un énorme orchestre, un énorme chœur, et j'avais tellement aimé.
C'est formidable.
Ouais, c'est formidable, cette partition aussi. Ouais.
L'heure de la sieste. Ce n'est pas 14h44 maintenant l'heure de la sieste, mais c'est parce qu'il se trouve que c'est la 10e piste du deuxième album Une oreille dans l'incendie, qui est donc, enfin, du deuxième CD de l'album Une oreille dans l'incendie.
Et c'est
donc l'enregistrement. Est-ce qu'on pourrait écouter à l'heure de la sieste?
On pourrait écouter le morceau
alors,
numéro 2.
Un
parce
autre,
qu'il y a du,
je
y a
tisse
du
d'étranges tapisseries.
C'est Marianne Bassler.
Ah non, moi, je suis parti sur le deuxième CD, moi. Là.
Ah bah d'accord.
J'ai quitté.
On finira avec le premier et la deuxième en flamand.
Bon alors, et donc là, je mets cette fameuse heure de la sieste où j'en mets un autre. Je mets Salut Ancêtre, ou qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi Dans les cachots, La nuit passée. Je suis sur l'enregistrement.
Je préfère entendre Laurence en direct.
Bien sûr, mais c'est pour lui permettre de se reposer, puis d'aborder le dernier quart d'heure avec il faut qu'on rentre davantage dans ce texte. Tu as dit, Gérald, 12 parties. Est-ce qu'il y a une chronologie dans ces parties? Est-ce qu'il y a des thématiques?
Le suivant.
Viens maintenant.
Il y a la musique de Dominique Lantin.
Je crois que c'est celui-ci, oui. C'est celui que moi. Voilà, d'accord, effectivement. Il va durer 9 minutes, on coupera.
Bien sûr, on coupe toujours.
Gérald, nous parlons bien de la pièce qui s'appelle...
Sainte, dans l'incendie, donnée jusqu'au 20 janvier, tous les soirs à 20h, excepté le samedi à 19h30, 1h, portée par un texte somptueux.
À quel théâtre?
Au Théâtre de la Croix-Rousse, évidemment.
Maintenant... Long feu, crayon de couleur, Jeanne danse la toupie sur des chevaux de bois. Un anonyme lui souffle, reste, un anglais lui tend une paille en croix pour la soutenir. Quelques animaux vagabondent autour du bûcher, on les chasse, ils reviennent, haletants. Petite caille appelant les îles, les fourmis, les prés mouillés. Les grandes inepties, toutes les têtes d'agneau se tournent vers l'enfant. Elle habite le buisson bouillant à la parallèle de Jésus. Catherine verse de l'eau partout pour apaiser les fleurs. Comme un narcisse à l'eau, elle dévore des nénuphars. La robe est soufflée dans l'air et se mêle au ballon captif des gamins. Il faut la suivre des yeux et la perdre de vue. Soudain, atteinte par la honte du corps donnée à voir au monde, elle parle du milieu du feu. Amour sans visage, cri de cigale, ébouillanté dans un champ, posé sur une universelle cithare. Éclaircie jusqu'à l'éblouissement, sa voix reforme alors tous les visages. La Vierge l'avait dit, c'est notre voix, celle qu'on ne peut pas changer. Toute une vie, rembourser cet instrument défectueux et un beau jour, se retrouver propriétaire d'un timbre fêlé, d'un coassement. Elles sont venir le goût des ruines, hurle la lueur. À ses pieds gris, un scarabée, dans une flaque de feu, elle regarde la femme stupéfaite de sa folle démarche, à peine faite déjà portée pâle, ne suffisant plus, Jeanne tombe des nues. Au revoir, belle au revoir, que fais-tu, gentil dauphin? J'aimerais te revoir. Elle réclame le pantalon, pris de pitié, le feu se fait plus froid, les cheveux blanchissent une seconde, elle ricane, tordant les doigts, les chevilles et la moelle épinière, elle tousse, une soupe de salaud, s'apaise avec ses mots, puis sérieuse, en sueur, dans les bois intérieurs, frappe le clavicorde et ressent la mort sur les notes les plus aiguës. Sourde, les voix se sont arrêtées à Saint-Denis. Jeanne, rajeunie, court vers le troupeau. Elle voit Judas pendu au cou de Jésus. La chienne aux yeux verrons, le diable aux gants d'amiante et aux cheveux d'enfant. Charles, roi des coquillages. Maman, bonne femme en fil de fer ouvrant les bras dans l'air des cloches. Les cheminées gaz de ville. Le cavalier du désert sous la blancheur de son capuchon, qui chante, la scène qui rapetisse, Ithaque, le nom qui tire les larmes, Ulysse, glissant loin de la terre, René au bord du lac, le rêve d'Alexandre et Jérémie, revenu de Pamoison, elle les voit tous s'éloigner.
Alors on écoute l'enregistrement historique, les archives du spectacle qui se donne en ce moment. Au théâtre de la Croix-Rousse, Sainte dans l'incendie.
Un double album, Une oreille dans l'incendie, et ça c'est le deuxième CD qui est donc plus
c'est
précisément...
C'est un CD qu'on peut trouver chez Inouï Distribution, qui est une petite maison d'édition que je trouve formidable,
directement
de Saint-Etienne.
Ce deuxième CD permet d'écouter le spectacle, mais il faut aller le voir le spectacle, même si on peut le trouver, hein, vous dites.
Et puis c'est pas la même chose sur, sur ce disque, on a rajouté des musiques parce que c'est un disque. Qui n'était pas forcément utile dans le spectacle.
Oui, d'ailleurs c'est très sobre.
Oui, je crois qu'il y a tellement de musique quand Laurence dit
ça,
les mots qu'il y a besoin d'ajouter un orchestre.
C'est ça qu'il faudrait peut-être dire aux gens, c'est qu'on revient aux sources du théâtre finalement. La scénographie est à la fois
un comédien sur scène,
très efficace, la lumière. Il y a tout ce qu'il faut. Le théâtre, c'est un texte. Voilà. Non, mais il y a le texte porté par un corps, quoi, une voix et deux esprits qui se rencontrent pour en faire un troisième, à communiquer avec le public.
Oui, je crois que c'est Grotowski qui disait, si on enlève tout ce qui n'est pas indispensable au théâtre, qu'est-ce qui reste? Il reste un acteur et un spectateur, et ensemble, chaque soir, ils inventent un truc. Bon, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
Ah, c'était une belle invention hier. Laurence, allez, parlez encore un peu, il nous reste 10 minutes. Qu'est-ce que, je sais pas, vous qui êtes sur scène, qu'est-ce que Laurent, metteur en scène, il est comment? Il est finalement très différent du Laurent auteur, il est très directif,
il est très attentif.
Ah, bon, il est cool.
Maintenant un peu moins, mais pendant au moins 150 représentations, il m'a fait j'avais des grandes feuilles de notes à la fin de chaque spectacle.
Ah ouais?
Des notes très précises, et en même temps, c'est ça qui. Un monologue de théâtre, ça se fait à deux en fait. Et la présence de Laurent, elle est très essentielle parce que.
Ah mais il est là tous les soirs d'ailleurs, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Très souvent, quoi. Je pense qu'il aura 150 sur 200 représentations environ.
Donc ça a évolué, des moindres inflexions d'un mot, de
je
diction, de silence. Ça a forcément changé.
Ça a peut-être bien changé, ça.
Oui, en même temps, il y a une vraie partition qu'on a inventée ensemble.
Il y a une vraie partition qu'on a inventée ensemble, mais alors vraiment, ça se fait à deux. Et c'est vraiment aussi. D'ailleurs, je le regarde souvent quand je joue, j'ai besoin de son œil, de son. Je sens qu'on est.
Son approbation tacite.
Oui, et il y a ce côté-là dans un monologue qu'on est. on n'est évidemment pas seul, sinon on mourrait. Et ça se fait avec les spectateurs et le metteur en scène tous les soirs. Moi, je trouve ça très vertigineux, parfois même un peu angoissant d'être seul sur un plateau où il n'y a en plus pas du tout de scénographie. Et parfois, mon corps, je ne sais pas à quoi le retenir. Et on a besoin d'un agrès, comme les circassiens. Mm-hmm. Pour moi, ce sont les mots. Et alors, ce regard avec le public.
Et est-ce qu'on a dit monologue, vous le dites encore à l'instant, c'est une seule personne qui parle ou c'est plusieurs? On pourrait peut-être mettre un peu ces termes. Il y a une sorte de narrateur, il y a également les propos de Jeanne, il y a différentes choses.
Il y a plein de voix, il y a à un moment donné les juges, il y a
cochon, humain.
Il y a les voix des gens, il y a Gilles. Il y a plein de voix, oui. C'est plein, il y a mère.
Gilles parle-t-il? Attention, ce sont des personnages évoqués. Il a un propos, oui. Tout le monde a.
Dit Gilles en caressant les orties.
Je suis libre,
dit-il, en caressant, etc. Et puis il y a aussi, à travers le temps, il y a des gens d'aujourd'hui qui parlent. Il y a une sorte de femme qui explique, comme une conférencière dans un musée, qui fait une visite guidée, qui explique tout à coup. C'est-à-dire, Jeanne d'Arc sort tout de suite de son tableau, et puis il y a même une conférencière qui sort Jeanne d'Arc et qui commente.
Qui dit, aucune version définitive de l'histoire officielle de la fin de la pucelle.
Donc Laurence Vielle se dédouble, se détriple, se déquadruple, se dénombre sur scène devant nous, quoi.
Il y a un peintre aussi.
Il y a un peintre qui peint sur le vif du feu.
Oui.
La flamme éphémère, il y a plein de gens. Ouais, il y a la foule, évidemment, il y a tout le cœur des villageois, il y a plein de gens. Ouais.
Oui.
Est-ce que c'est un texte qui, vous avez dit qu'il était, ça a été, l'apprendre a pu être un peu difficile, mais l'incarner, le faire sur scène, est-ce que ça peut créer, certes, un certain plaisir, bien entendu, mais certaines souffrances? Est-ce que vous souffrez comme Jeanne peut souffrir peut-être dans ces flammes?
Ça fait mal au corps.
Mal au cœur.
J'ai l'impression que le corps, il est un peu consumé à la fin de la représentation.
Les derniers mots éparpillés.
C'est un texte qui travaille le corps, mais vraiment fort. Il est épuisant, mais avec c'est beau le mot épuisant, hein, ça sort du puits. Il y a quelque chose qu'il faut aller chercher dans le lointain de soi-même pour le dire. Et à chaque instant, il faut être dans le lointain de soi-même et en même temps dans la face de soi-même. Et c'est cette espèce de gymnastique-là qui est consumante. Et puis, mais c'est bien de la recommencer, en tout cas ici à la Croix-Rousse, 10 fois. Quelle grande joie, voilà, d'être consumée par les mots de Laurent.
Et c'était bien d'ailleurs de voir des élèves, des lycéens qui étaient là. Et j'avais un peu peur au début. Ouais. Je me disais, oh là là, les pauvres, peut-être ça va être indigeste. Et en fait, tout de suite, ils sont rentrés dans cette.
Il faut que Laurence livre quelques anecdotes. Oui,
dans ce jeu de Laurence, grâce à Laurence, hein, ils sont rentrés dans ce poème qui pourrait être comme du slam pour eux, ou comme
vous les avez...
un poème, voilà.
Ils étaient intrigués,
hein. Certains étaient... Et je pense qu'ils ne s'ennuyaient pas, ça c'est formidable. Certains étaient intrigués, regardaient comme une chose étrange qui vient de
Un autre nid,
oui. Et j'étais très très heureux que pendant 1h05, une si belle écoute de la part du public.
Et ce n'était pas gagné au début, parce que Laurence, vous les avez chopés, c'est saligo.
Dans le public au début, dans un petit coin, et alors je vois, ils se mettent dans le petit coin, puis j'en entends qui disent, moi je me mets là parce que je t'avertis que je n'écoute pas, et puis il y en a un qui dit, bah alors je te laisse ma place parce que moi je vais peut-être écouter un peu. Ouais. Et alors ils se mettent comme ça, 5-6 dans ce petit coin pour pas écouter.
Je ne savais pas
que je jouais. Alors quand je me suis levée, je les ai d'abord longtemps regardés, avec beaucoup de tendresse. Mais c'est vrai que quand il y a des jeunes, ça me donne encore plus envie d'être dans le côté rythmique du texte. Et c'est vrai que parfois j'ai l'impression que c'est une espèce de slam endiablé par moments où on peut vraiment être là-dedans, dans cette matière rythmique et sensible. Et que c'est ça aussi le plaisir de ce texte, c'est qu'il est vraiment musical.
Moi, j'ai été très très marqué quand j'étais ado par autant les anciens de l'oralité, de la poésie, comme Léo Ferré ou comme
l'inventeur du hip-hop,
mais aussi comme Dick Annegarn ou tous ces gens-là qui étaient toute la chanson française à texte poétique, mais vraiment bien mis en musique, bien incarné, bien organique. Dick Annegarn était vraiment une influence vachement forte.
Est-ce que ce texte, vous...
Colette Mani aussi, qui a inventé des choses.
Est-ce qu'il a pu vous influencer? Vous m'avez répondu tout à l'heure, vous avez été très clair, ce n'est pas vraiment un type d'écriture que vous pourriez avoir, mais est-ce qu'après, par la suite, dans ce que vous avez écrit, est-ce que vous avez pu composer des choses qui ressemblaient un peu?
Le pigeon,
oui. Le pigeon.
Mais je crois que là où on se rejoint, c'est que tous les deux, on est des colleurs de monde, qu'on est tous les deux, qu'on est des grands, comme tu disais, on guette dans le monde des petites choses, des petits détails. détails, des images, des chocs langagiers, des chocs de sens, de plein de choses, de corps, de sons, et après on colle ça,
des
on
glaneurs.
Met ça ensemble, voilà, on est une
faut être des voleurs
des
inspirés,
des arpenteurs, glaneurs,
voleurs, voilà. Ouais, les artistes qui prétendent faire quelque chose de nouveau avec ce qui a déjà été fait.
Non, ça veut dire qu'on est des éponges, on est des oreilles ouvertes, on est des comme ça, on capte des chambres d'écho, on capte des choses du monde, et puis on en fait des. Mais on recycle en fait.
On est des recycleurs.
Tous, on recycle de toute façon.
Tu souhaites le citer, Gérald, ce titre de film, c'est Agnès Varda, je crois.
Ah oui, oui.
Le glaneur et la glaneuse.
C'est ça. Oui.
Les glaneurs, je sais plus.
Enfin, en tout cas, le feu éteint, nous sommes crétins, défaillants. Reste une langue vivante dans la doublure du monde, sur la babine noire d'un chien plus grand que Dieu.
Il faut jamais que le feu s'éteigne, ouais.
Ah, c'est, vous citez que des beaux passages, Gérald.
Mais c'est difficile de ne pas en citer des beaux.
Oui, c'est vrai que chaque phrase, on peut la prendre, on peut l'extraire.
Et on va la torturer, la triturer.
Oui, c'est vrai.
Lui donner un sens autre qu'elle avait peut-être au départ, d'ailleurs.
Oui, hier, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient acheté le livre et qui me disaient, quand on a écouté ce texte, on a envie de relire les phrases. Et voilà. Et quoi de plus.
De se le mettre en bouche à sa manière.
Les spectateurs qui disent ça. Alors on se dit,
c'est gagné. Bravo.
A été fait.
Pour l'écouter, spectateur, vous pouvez tout à fait le faire en attrapant un coin C3, C13, non pas le C3, je crois, au contraire, le C13, je ne sais quel bus qui monte à la Croix-Rousse. Il y a également la ligne de métro. Il y a plein de moyens.
On
peut même s'y rendre à
monter de la Grande Côte par les escaliers.
Peut-être pas en vélo.
Très beau.
Peut-être pas en vélo.
Sur la ville.
Peut-être compliqué.
Mais
il faut s'y rendre.
Qu'est-ce que c'était beau.
Et une fois entré dans le théâtre, il faut prendre à droite sur la montée d'escalier. Il y a donc ce grenier, vous le qualifiez. Je sais pas, moi, peut-être que le terme semble un peu dépréciatif, un peu péjoratif.
Studio, oui, c'est le studio.
C'est le studio.
C'est pas en noir, rideau noir, tout est noir.
J'aime bien. Moi, ça me fait penser à un grenier. Et puis il y a un magnifique vitrail,
voilà,
du théâtre qu'on utilise. Oui. Et du coup, c'est comme si on avait fait un nouveau décor à chaque fois.
Pas d'estrade, on est directement.
Ah oui, c'est plein pied, plein champ et plein pied.
Voilà. C'est magnifique. Nous n'avons pas tout dit, mais nous sommes prêts à terminer. Alors qu'il est 14h57
et que.
Mais non. Attention, l'émission n'est pas finie parce que. Gérald Pascal me l'a annoncé. Gérald Pascal m'a dit qu'il ne viendrait pas faire le blues des canuts. Alors on va peut-être déborder un peu. Surtout que généralement je n'aime pas trop faire ça. Je vais faire un compte rendu dans quelques instants. Je lirai une chronique. Je lirai une chronique et peut-être d'ailleurs pourrais-je demander l'avis de Laurent et de Laurence sur ce compte rendu qui a été fait sur une pièce Al Atlal qui a été donnée au TNP en décembre dernier. Je crois c'est Goulven qui m'a transmis ce texte. Je propose de le décrocher tout de même de Jeanne d'Arc. Écoutons Shoot Me in the Head. Je l'ai prévu. Je l'ai calé.
C'est Bob Lippman qui a composé cette chanson et qui est un de nos proches camarades de jeu et de musique.
Shoot me in the head.
15h auditeurs, ce n'est pas le blues des Canus, ce n'est pas Pascal qui est à la parole, parce que, qui est à l'antenne, puisque le blues des Canus est hélas reporté, déplacé la semaine prochaine, enfin disons, l'émission est annulée pour aujourd'hui. Donc,
tant mieux pour nous.
Je me permets, je lui en avais parlé d'ailleurs, je ne pense pas qu'il puisse nous écouter en ce moment, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'émission n'a pas lieu, donc je lui avais dit qu'on volerait quelques minutes, vraiment très peu, puisqu'ensuite Gérald, on a un gros après-midi chacun de notre côté, plein de choses à faire. Donc je vous lis un compte rendu d'une pièce qu'il est allé voir. Alors ce n'est pas une chronique de Gérald lui-même, c'est une...
Goulven.
Excuse-moi, j'arrête pas de faire des lapsus aujourd'hui. Goulven, ce n'est pas une chronique de Goulven, c'est une chronique d'un de ses étudiants, puisqu'il a emmené une classe voir cette pièce le 14 décembre et c'était une belle soirée qu'il a bien appréciée. Donc voici ce qu'écrit son étudiant, un certain Alexis G., étudiant de prépa au lycée Lamartine à Montplaisir. Al Atlal est une pièce de théâtre écrite par Nora Krief qui se compose d'un chant musical entrecoupé d'anecdotes sur la vie de l'auteur. Face à la pièce, on se demande d'abord comment réagir. Qu'est-ce que l'auteur nous chante? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous transmettre? Une fois la réserve du début passée, on se retrouve transporté par des mélodies et des sonorités inhabituelles. La confrontation avec une langue étrangère et une conception différente de la musique offre un réel sentiment de dépaysement et ravit notre imagination nourrie par l'exotisme du mystérieux Orient. L'instrumentation offre quelques moments de fulgurance et d'originalité inattendue, un solo de guitare électrique long et mélancolique, ou bien la symbiose transportante entre la voix, les cordes traditionnelles et l'accompagnement électronique. Mais Al Atlal, traduction Les Ruines, c'est d'abord une pièce très personnelle. Entre deux passages chantés, l'auteur s'adresse au public dans une langue simple et franche, sur le ton de la confidence. Ainsi, au fil de la représentation, nous recomposons, à travers les petites tranches de vie, l'enfance de l'auteur, une enfance marquée par une mère juive tunisienne expatriée qui continuait de vivre en France comme en Tunisie, qui chantait Al Atlal, la fenêtre ouverte, en préparant le couscous. Une pièce qui sert de pont entre une fille et une mère qui n'ont pas su se comprendre. Al Atlal est un chant arabe qui raconte l'histoire d'une femme qui brûle d'amour pour un homme qu'elle a perdu. Dans la bouche de Nora Krief, le texte se leste de plusieurs niveaux de lecture. Il porte une recherche de son identité et de ses racines. Il porte un chant d'amour mélancolique et déchiré pour une mère perdue qu'elle n'aura pas appris à connaître. Toutes ces interprétations s'entremêlent dans les vrilles d'une musique enivrante pour nous offrir une expérience réellement touchante qui pose la question du rapport à l'intégration, à ses origines et à ses parents. Beaucoup d'humains dans une heure de spectacle. Une chronique donc d'Alexis G. Je suis tout à fait passé à côté de ce spectacle, donc Al Atlal qui était manifestement au TNP. Je ne sais pas si le TNP, on pourrait en parler un peu cette saison, parce que, on verra. C'est destin peut-être la semaine prochaine. Pierre Maillet, a priori, dans la cuisine d'Elvis. Ça, c'est donc l'actualité à venir pour nous, pour Spectaculaire.
J'ai beaucoup aimé dans la cuisine d'Elvis.
Ah bah très bien.
Oui.
Et pour vous, Laurent, est-ce qu'il y a quelques dates à venir, différentes choses, des spectacles, des scoops? Pourriez-vous nous donner quelques primeurs, s'il vous plaît? Accordez-nous une primeur.
Ah non, nous on aime bien rencontrer les spectateurs, donc si vous venez à la Croix-Rousse, on se réjouit de vous rencontrer.
Bord de Seine, y a-t-il un bord de Seine prévu?
Il y a une rencontre ce soir. Venez.
On peut faire bord de Seine tous les soirs.
Après le spectacle, au
bar. Sinon, moi, je serai dans une bibliothèque du 2e, de 10 à 13 samedi matin, pour donner un atelier d'écriture.
Bon, on peut les trouver.
Côté, je peux juste faire un clin d'œil au théâtre des Marronniers, un autre théâtre qu'on aime beaucoup. C'est avec une création Rimbaud. On va traverser l'œuvre de Rimbaud au mois de mars avec Maxime Dambrun, un jeune comédien que j'aime beaucoup, qui sera accompagné sur chaque représentation par des musiciens différents qui vont venir improviser avec les mots de Rimbaud. Un Rimbaud avec le cœur sous une soutane, ce texte magnifique que Rimbaud écrit à 16 ans et qui sera là aussi où j'ai fait un collage de on passe du cœur sous une soutane. J'allais y venir. On est dès la semaine prochaine au théâtre de la Renaissance à Oullin. On fait une année lyonnaise et alentour avec joie. On retrouve Lyon et avec Sainte dans l'incendie ici à la Croix-Rousse. Et puis au théâtre de la Renaissance la semaine prochaine, du 15 au 20, Thierry Gibault, un acteur fidèle avec qui j'ai fait plusieurs pièces, un acteur formidable qui va dire le texte. Magnifique texte de Bohumil Hrabal, le Tchèque, sur la censure, un texte très drôle en plus, très très baroque et barré, et qui fait l'apologie des livres et de la pensée et de l'être, tout bêtement, d'être au monde. Et c'est vraiment un beau texte, une trop bruyante solitude, tous les jours de la semaine prochaine, du lundi au samedi de la semaine prochaine, à 20h, au Théâtre de la Renaissance. Vraiment, si vous avez une heure à perdre et surtout à gagner, j'espère, venez. Voilà.
Et actuellement, Gérald, on le connaît, le Théâtre des Marronniers, disons, on connaît la compagnie qui s'est produite. C'est la compagnie L'Oblique pour un spectacle autour de Raymond Devos. Et tu sais, Gérald, qui est dans la compagnie L'Oblique, hein. Te rappelles-tu Olivier? Oui. Olivier Borle, comédien déjà venu plusieurs fois à l'émission. Il est actuellement, je ne retrouve plus les renseignements, il est actuellement au Théâtre des Marronniers pour un spectacle autour de Raymond Devos. Donc c'est encore intéressant.
Oui, aussi. Pas belge, il aurait pu l'être.
Des mots.
Peut-être qu'il l'est d'ailleurs. C'est une très bonne idée de.
Ils sont dessus, tous les locataires du dessous, ou d'habiter au-dessus, tout cela, parce que les locataires du dessus sont allés dire par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage du dessus était meilleur que l'air que l'on respirait à l'étage du dessous. Moi, je suis au-dessus de ça.
Ben voilà, il suffit de demander.
Et tiens, d'ailleurs, pour commencer, Raymond Devos, il a un aphorisme que j'aime bien, c'est « se coucher tard, nuit
». Et Valère Novarina, « la lumière, nuit ».
Alors, je me suis en fait trompé, c'est plutôt le théâtre des Pierres Dorées, mais je crois qu'il y a également, ou alors je me trompe, c'est peut-être pas Olivier, mais c'est Damien Gouy, c'était un autre comédien également lié un peu au TNP. Et donc, Rêvons de mots, voilà, c'est de vos Rêvons de mots, c'est donné au théâtre des Marronniers. Est-ce que j'ai les dates sous les yeux? Non, je crois pas que je peux avoir ça. Je le mettrai sur le blog, comme d'habitude.
En tout cas, jamais 203, donc Laurent.
Il faudra revenir.
Il faudra revenir une troisième fois. Laurent, vous revenez quand vous voulez.
Avec plaisir.
Je vous dis, quand je passe par ici, je vous donnerai grand plaisir.
Plaisir. Merci beaucoup. Auditeur,
merci à vous. Pour terminer, je mets la version, je l'ai trouvée, la version de Placebo de Big Mouth Strikes Again. Ça va être un peu, ça commence à la guitare aussi.
Et allez voir ce spectacle.
Et allez voir ce spectacle de Joan of Arc, de Jeanne d'Arc, qui flambe, mais c'est qu'à la fin. Mais
d'ailleurs, je suis sûre que si Jeanne d'Arc était musicienne, elle jouerait
de la guitare électrique. Comme Brigitte Fontaine.
Ah, ça serait
qui elle ne sait pas jouer, par contre. Elle le dit dans sa chanson.
Dans la cuisine d'Elvis, c'est une pièce qui a commencé, donc on en parlera la semaine prochaine. Mais avant d'aller voir dans la cuisine d'Elvis, allez plutôt voir Sainte dans l'incendie. Sainte, je crois, trois fois Sainte dans l'incendie. Une pièce de Laurent Fréchuret, mise en scène par lui-même avec Laurence Vielle. Merci beaucoup.
Merci.
C'était absolument
merci
génial. Merci. Auditeurs, faites ce que vous souhaitez cet après-midi. Il y a plein de programmes à venir, notamment le combi, méga combi à 18h et Canu Info à 19h. On se retrouve mercredi prochain. Ciao Gérald.
Ciao.
Bonne journée. Couvrez-vous, hein. Je crois qu'il pleut. Allez,
ouais.
Allez voir des spectacles.
Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Ça fait ta grenouille.